Sandra, c'était donc président du jury pour cette 15e édition du Festival de la Fiction Télé. Comment abordez-vous ce rôle ?
Avec le plus grand sérieux du monde, même si j'ai l'impression que c'est toujours un peu des rôles en bois, quoi. C'est-à-dire que, bon, président du jury, je suis très en vue et j'ai rien fait, moi, cette année. C'est-à-dire que j'ai pas fait un film, j'ai pas tourné, ou j'ai pas. Enfin, si, j'en ai fait, mais c'est pas là. Mais du coup, je sais par contre que ça peut être très important pour certains, ça peut avoir de la valeur, voire même des petites conséquences, pas énormes, mais ça peut mettre en exergue leur travail. Donc j'ai du recul sur moi-même, mais je vais quand même faire ça sérieusement.
Même parce qu'on a le sentiment que vous êtes devenu un poids lourd, une figure incontournable de la fiction, en tout cas du programme court. On a beaucoup parlé de Kaamelott tout à l'heure. Est-ce que c'est un poids pour vous ? Est-ce que vous sentez... Vous sentez un petit peu affligé de ça, enfin en tout cas un petit peu appesanti par cette image que vous, en tout cas vous donnez sans avoir le sentiment d'être légitimement à votre place.
J'en sais rien, c'est compliqué parce que mon métier n'est pas de parler de ça, c'est le faire surtout. Mais j'ai pas envie de ne pas parler quand on me le demande, c'est-à-dire que la ministre de la Culture, tout à l'heure, voulait parler avec des auteurs. On y est allé. C'est pas mon métier d'essayer de lui expliquer ce qui va pas, parce que je suis pas persuadé de savoir ce qui va pas déjà. Je suis même pas persuadé que ça va pas. Enfin, en revanche, si on me demande mon avis, je vais le donner. Et puis, le poids lourd. Disons que, si, le seul truc que je promets, c'est que. J'ai des potes chez les diffuseurs, je suis en affaire avec des chaînes, et que si elles me gonflent, je le dirai. Voilà, je protège. Si pour moi il y a des défauts dans la boutique, d'ailleurs je pense que je suis assez pote avec certains pour qu'ils comprennent qu'on est potes, mais que je suis pas d'accord avec la 100% de ce qu'ils font. Voilà.
Là, on parlait de la fiction. On a le sentiment que vous êtes frustré un petit peu par tout ce qui se passe, tout ce que vous pouvez éventuellement voir, que les créations, les pépites ont du mal à émerger.
C'est pas ça. C'est que je regarde beaucoup de séries, que ce soit américaines, anglaises, et c'est vrai que des fois je trouve que c'est pas qu'on sait pas faire ça, parce qu'il y a des fois des séries de chez nous qui explosent comme ça et qui se mettent très au-dessus du reste. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est une exception. Alors, les bonnes séries américaines qu'on reçoit chez nous sont aussi des exceptions chez eux, parce qu'ils nous envoient pas ce qui est pas bon, et il paraît qu'il y en a largement 4 fois ce qu'on reçoit, mais quand même, je trouve qu'il y a une part de la fiction française qui reste toujours un peu malade du même virus. Il y a toujours une part littéraire qui va se mettre sur le dialogue, il y a toujours une espèce d'informativité systématique du discours, de l'acteur. Des acteurs qui sont pourtant bons, parce qu'alors Dieu sait qu'on a des acteurs formidables dans notre pays, largement. Le meilleur exemple étant Pierre Mondy, pour moi. Voilà, j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que Pierre Mondy, pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, pour tout le monde sait que c'est un immense acteur. Un immense acteur, ça faisait partie de notre patrimoine. Je veux dire, je parle volontairement avec un coq sur l'épaule, c'est-à-dire, ok, on veut se différencier des Américains, machin, voilà, qu'est-ce qu'on a ? Nous, on avait des mecs comme Mondy, et on en a encore des mecs comme ça, c'est-à-dire des trésors nationaux, comme on dit au Japon. Et alors, effectivement, il était à la télé, mais moi, je vous le dis, je connaissais Mondy, j'aimais Mondy, Mondy me manque, et il était utilisé à 20% de ce qu'il savait faire. Ça, c'est pas chouette. Ça, c'est pas de la faute de Mondy, ça. C'est de la faute de ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains. Et encore, c'est ceux qui l'employaient. On peut pas leur jeter la pierre, parce qu'il y a tous ceux qui l'employaient pas. Mais voilà, c'est certainement pas les acteurs qui nous manquent. Hein. C'est plutôt ce qu'on leur met dans la bouche qui va pas, des fois.
Vous parlez de ce vernis. On parle là de vernis littéraire qui se met sur les dialogues. Comment on fait pour écrire si juste ?
Alors, si tant est qu'on puisse écrire juste, je pense que tous les scénaristes devraient mettre une fois dans leur vie le pied sur une scène, parce que déjà ça va pas les bouffer, parce qu'ils vont avoir très peur, très 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 peur, et qu'ils comprendront que cette peur ne se rembourse pas avec des mauvaises répliques. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'avoir des bonnes répliques dans la bouche quand on a peur. Parce que c'est la manière qu'on a d'être bon acteur, c'est qu'il faut avoir des bonnes choses à dire, et c'est la seule manière qu'on a de rembourser le prix de la place et la sévérité du public. Donc déjà, si tous les scénaristes mettaient le pied sur une scène, mettaient d'ailleurs un peu l'œil derrière une caméra, si tous les réalisateurs mettaient le pied sur une scène, et essayé avec un crayon une fois dans leur vie d'écrire quelque chose. On me reproche, c'est pas qu'on me reproche, mais des fois on dit ouais, c'est un touche-à-tout. Un touche-à-tout, je déteste ce terme parce que ça voudrait dire que je fais tout moyen. Ça me gonfle parce que on parle de la musique, tout ça. Je veux dire, non, ça fait chier quoi. Non, j'ai un prix de Paris, j'ai passé 20 ans à apprendre que ça. Non, j'ai pas l'impression d'être un touche-à-tout, mais je m'intéresse à tout vivement quoi. J'ai une curiosité naturelle pour les choses et je sais que j'ai appris du fait d'avoir mis le pied dans plusieurs endroits. Je le sais, ça se voit tout le temps. Je sais parler à un chef op, même si je ne le suis pas moi-même, mais je sais parler à un mec du son. Je sais parler pas simplement parce que j'ai appris un jargon, parce que j'aime ce qu'ils font, parce que j'aime ce métier, parce que je suis curieux de leur technique. Et quand on est acteur, Adjani le dit, les films des acteurs, les films qui sont faits par des acteurs, sont pas toujours des chefs-d'œuvre, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils parlent jamais faux, rarement. On peut avoir un acteur qui malencontreusement écrit des répliques qui ne se seraient pas données à lui-même. Bon, ça arrive, c'est une erreur. Il y a deux branches de cerveau qui ne se sont pas mises ensemble. Mais d'une manière générale, non, il faut aller au charbon. Et puis on voit ce que c'est, et puis après on écrit moins de conneries.
Là, on parlait beaucoup de vos projets. Astérix en film d'animation. Kaamelott, on sent que c'est quelque chose qui vous pèse aussi. En tout cas, vous aimeriez vous exprimer sur grand écran. Là, ça occupe vos journées en ce moment là,
Ah oui, beaucoup. Et notamment, pas ce que vous avez dit, justement. C'est-à-dire tout le reste. La nouvelle série science-fiction que j'écris, ce que j'écris pour Canal, qui me prend beaucoup de temps parce que j'en suis à la troisième version, qui me demande de mettre le pied dans des choses que je n'avais pas prévues. Enfin. Et puis je m'inspire beaucoup, je me documente beaucoup pour écrire. J'écris un long métrage aussi et je vais sur le terrain, je discute avec des gens, avec des scientifiques. J'aime beaucoup les scientifiques dans le sens large du terme, des historiens, des spécialistes de quelque chose. J'ai eu besoin récemment de parler à un spécialiste des drogues, par exemple, des drogues dans l'histoire, des drogues dans les civilisations. J'ai eu besoin de comprendre des choses, j'ai eu besoin de comprendre des choses sur l'éthologie animale, j'ai eu besoin de comprendre des choses sur la physique, l'astrophysique. Et je ne m'ennuie jamais à parler avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. Jamais, jamais. Et je pense que ce que j'écris naît de cette véracité-là ou de cette étude. J'aime les gens qui étudient. Et du coup, ça me fait étudier avec eux. Avant de passer dans un stade qui ne leur appartient plus, qui est l'écriture un peu fofolle d'un artiste qui, j'aime pas le mot, mais enfin qui sort du fait pour rentrer dans la narration.
Et toute cette création, est-ce que le fait que vous ayez fait vos preuves, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de vous sentir attendu au tournant ou pas ?
Non, parce que j'ai fait un film avec Isabella Gianni, David Manavansen, qui n'a pas bien marché commercialement, dont je reste fier et que j'ai toujours revendiqué, ça ne m'a pas atteint, ça ne m'atteint pas. Mais je crois que les succès ne m'atteignent pas beaucoup non plus. Je pense que je vis sans... Je suis extrêmement protégé de ce que le public dit. S'ils n'aiment pas un truc... D'ailleurs, bon, dans le cas du film, ce n'est pas qu'ils n'ont pas aimé, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup... c'est qu'ils ne sont pas beaucoup à l'avoir vu. Ceux qui l'ont vu l'ont aimé. Donc, ce n'est pas un vrai échec. Mais peu importe... Le pire des trucs qui existent dans notre métier, c'est le marketing. Et le marketing vient du fait d'essayer de plaire selon ce que les gens attendent. Il y a une phrase, elle est en anglais, mais je la traduis. C'est la grande vérité pour moi. C'est qu'un auteur, un artiste ne donne pas aux gens ce qu'ils attendent. Il donne ce dont ils ont besoin. Mais c'est une chose qu'il doit soupçonner et savoir par-dessus le public. Le public est absolument incapable de dire ce qu'il veut. Parce qu'en fait, il va vouloir un truc qu'il a déjà vu. Il va vouloir un truc qu'il croit aimer. Et en fait, son premier besoin au public, qu'il le sache ou non, c'est d'être surpris par quelque chose auquel il ne s'attendait pas et avec qui il n'avait aucune familiarité. Et ça, la surprise, ça s'organise. Donc je ne ferai jamais ce qu'on attend de moi.
Merci beaucoup.